Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Déchiffre-moi. Je suis Ladine, nous allons passer les prochaines minutes ensemble et vous m'en voyez ravie. Transformation. Évolution. Éclairage. Entrepreneuriat. Déchiffrez-moi, le podcast qui décrypte et inspire l'expertise comptable de demain. Dans ce nouvel épisode, on continue avec un sujet essentiel pour tout entrepreneur, comment faire grandir ses collaborateurs pour les fidéliser. Antoine Michel, dirigeant du cabinet Intégral Expert à Saint-Quentin dans les Hauts-de-France, nous éclaire sur les clés d'un management sain et épanouissant. Bonjour Antoine. Aujourd'hui, je suis très fière de m'entretenir avec vous. Comment allez-vous ?
Ça va, merci. Merci de m'accueillir. Merci de nous donner la parole.
Alors Antoine, on est particulièrement ravis de vous recevoir pour parler d'un sujet essentiel. Comment faire grandir ses collaborateurs pour les fidéliser ? Dites-nous comment vous voulez qu'on vous présente, expert comptable ou entrepreneur ?
Si vous voulez, nécessairement les deux. Je pense que tous les experts comptables qui dirigent des cabinets se présenteraient comme ça. Notre métier, c'est la comptabilité. Notre métier, c'est l'expertise comptable. Du fait qu'on dirige des entreprises, nos cabinets, que ce soit des cabinets monosites ou multisites, on est nécessairement entrepreneur. Je vous répondrai les deux, tout simplement.
Les deux, effectivement, entrepreneur et expert comptable. Alors, vous êtes à la tête du cabinet Intégral Expert dans les Hauts-de-France, hein, comme je l'ai dit. Votre cabinet est une entreprise familiale fondée en 1957. Vous avez donc connu l'époque du traitement mécanique des comptabilités par la carte perforée. Comment avez-vous géré, et gérez-vous d'ailleurs, les nombreuses évolutions technologiques de la profession ?
Alors, c'est un long retour en arrière là que vous me proposez dans votre question. Je précise juste qu'effectivement, notre cabinet Intégral Expert est situé dans les Hauts-de-France et que j'ai la chance de diriger également un cabinet dans le Val-d'Oise qui s'appelle CEBOC. Et donc, on vit en ce moment pour ces deux cabinets les transitions numériques que connaissent tous les acteurs de la profession. Et donc, en effet, que ce soit le cabinet CEBOC ou le cabinet Intégral Expert, Intégral Expert, ça remonte aux années 60, même avant les années 60. C'était mon grand-père, profession comptable libérale, classique. Et puis, du côté du Val-d'Oise, le cabinet CEBOC, c'est pareil, c'était un cabinet familial fondé par la famille Fraisse. On fêtera les 50 ans du cabinet cette année, en 2021. Et donc, c'est un peu la même histoire qui nous rapproche avec une traversée de toutes les époques sous l'angle des technologies. Alors, la carte perforée, c'est pas moi qui l'ai connue, bien sûr, mais on en a quelques traces dans nos archives, dans nos armoires. Bon, et puis alors, pour l'anecdote, figurez-vous qu'en plus, chez Intégral Expert, on a conservé une collaboratrice dans nos équipes qui continue de venir travailler en cumul emploi-retraite. Elle a fait partie des collaboratrices qui étaient opératrices de saisie à cette époque, de la comptabilité mécanique en effet. Donc, c'est plutôt elle qui a traversé les époques sous l'angle des évolutions technologiques, beaucoup plus que moi. Bon, mais on peut en parler quand même. Alors, comment on a géré les nombreuses évolutions ? Ben, je dirais comme tout le monde, en essayant de rester le plus contemporain possible. C'est une question de tempo. Les évolutions technologiques, tout le monde les a adoptées. La question, c'est à quel tempo ? Pas être trop en avance et évidemment ne pas être en retard sur ces évolutions. Alors, de la carte perforée à la calculatrice, ensuite l'avènement de la micro-informatique, MS-DOS, Windows, les télétransmissions avec les portails de télédéclaration. Voilà, on a connu toutes ces époques et puis maintenant, on se prépare à une ère qui probablement ressemble à toutes les autres en termes de mutation. L'ère du data, l'ère de l'intelligence artificielle, et donc encore une fois des transformations technologiques. Probablement, ce qui distingue celle-ci de celle qui nous précède, c'est probablement que l'usager qui se trouve derrière ces technologies change lui aussi. Si vous voyez ce que je veux dire,
auparavant,
les transformations technologiques n'impliquaient pas autant l'usager que ce qui se passe aujourd'hui dans notre profession. Et comme aujourd'hui, l'usager, que ce soit, est principalement le client, les usages de la technologie ne sont plus les mêmes. Et c'est là que se trouve la singularité de ces transformations d'aujourd'hui, en 2020, 2021, parce que les usages changent par l'utilisateur, que ce soit le collab ou le client,
oui.
alors qu'auparavant, ce n'était qu'une question d'outillage, en quelque sorte.
Tout à fait.
C'est moins impliquant pour l'usager, je dirais. Dans votre question, vous évoquez les collaborateurs pour les faire grandir, les fidéliser. Alors, il y a beaucoup de sujets dans votre question. D'abord, la question du tempo, être ni en avance ni en retard sur les évolutions. Ensuite, prendre en compte la partie, le volet usager, c'est-à-dire le comportement des usagers face à l'outil. Et puis, le management des collaborateurs dans ce contexte implique un comportement du côté des dirigeants particulier parce que, en effet, il faut emmener un maximum d'adhésion autour de ces transformations, faute de quoi les transformations, les mutations risqueraient d'être ratées. Donc, le management est essentiel. Je ne vous cache pas que chez Integral Expert, un cabinet de taille moyenne, comme chez Cboc, on est dans des équipes restreintes, on est des petits cabinets voilà, avec des bureaux multisites qui vont de 4 à 15 collaborateurs. Et puis, il faut manager transversalement avec des collaborateurs qui s'impliquent. Et puis, il faut donner du temps. Voilà, il ne faut pas être trop exigeant non plus. Et j'ai souvent eu l'occasion de dire que ce qui m'importe, c'est d'avancer, y compris si ce n'est pas de manière parfaitement linéaire. On peut avancer de manière fractionnée. On peut avancer par à-coups, ça ne me gêne pas. Certains collaborateurs vont faire des pas de géant pendant que d'autres vont tâtonner sur ces transformations, sur ces nouveaux usages. Mmh. Ça ne me gêne pas. Ce qu'il faut surtout, c'est que personne ne recule, que jamais on dise, voilà, on a fait des choix, il faut les censurer et revenir en arrière. Il faut avancer, voilà.
Quel a été l'impact de ces évolutions sur l'organisation de votre cabinet? Vous en avez un peu parlé, mais si vous pouvez nous en dire un peu plus.
En effet, alors en fait, comme on est multisite, on était un cabinet de taille moyenne. Chez Integral Expert, on a été jusqu'à 40 collaborateurs avec les évolutions d'un marché local plutôt stable, je dirais presque parfois atone. Aujourd'hui, chez Integral Expert, on est 27 et chez Cboc, on est une quinzaine. Donc, ce qu'on a connu antérieurement dans nos cabinets multisites, c'est que d'abord, on avait une accumulation de serveurs. Le premier chantier, ça a été d'aligner nos serveurs. Et on est basculé, comme certains confrères, sur le cloud. Oui. On a travaillé en mode SaaS assez tôt, je dirais. Si on regarde à l'échelle de l'histoire de cette technologie, on est en SaaS depuis 2016-2017.
Ah oui.
On en parle aujourd'hui comme étant un outil, une ossature incontournable du management de l'IT dans les cabinets.
Oui.
Mais chez nous, on est sur le SaaS depuis 2017. Ça a permis de régler le problème de l'accumulation des serveurs dont la durée de vie n'était pas forcément homogène. Et puis, ça résultait d'un développement de cabinet par croissance externe. Et puis finalement, on avait accumulé des couches qu'il fallait impérativement recentrer, aligner. Donc, on a pu, grâce à ça, travailler sur l'ensemble de nos bureaux avec les mêmes bases de données. Donc, j'ai porté un attachement assez fort à travailler nos bases de données parce qu'on est un métier d'information et sur la base de données clients, la base de données des services, des métiers que l'on fait ou la base de données des collaborateurs, on a unifié nos bases grâce à un fonctionnement sur le cloud. Et puis aujourd'hui, on va dire que 5 ans après, le SaaS nous a largement aidé à travailler à distance et pour ainsi dire en télétravail parfois. Donc chez Cboc, dans le Val d'Oise, qu'on a repris il y a un an et demi, on est basculé d'un serveur local à un SaaS en pleine période de confinement, là au mois de mars-avril 2020. Et donc, ça a facilité le télétravail, le travail en temps réel. Et puis, la tuyauterie n'étant pas la même, le débit n'est pas le même non plus. Et donc, ça a quand même largement aidé à fluidifier nos travaux sur nos outils. Voilà, le SaaS, ça a été un grand moment quand même de transformation de notre ossature. Ensuite, on a sur l'aspect technologie, on a changé nos outils de production il y a seulement 2 ans maintenant.
Oui.
On était sur des outils que pas simplement disqualifier, simplement dire qu'ils n'étaient pas préparés à une ère des outils collaboratifs, à l'ère de l'EDI, à l'ère de la dématérialisation. Et donc, pour toutes ces raisons, on a dû faire ce choix. C'est un choix, pour l'instant, qui est parfaitement heureux d'avoir migré nos outils sur les chaînes Agiris. Donc, on a pris Isaconta, Isaged et puis IsaGI. Pour nos outils. Alors, ça a permis, là encore, d'augmenter l'alignement de nos méthodes de chacun de nos collaborateurs. Et donc, ça a permis d'insuffler un management uniforme. Alors qu'auparavant, si on remonte à il y a guère que 5 ans, Et on pouvait parfois souffrir de méthodes qui n'étaient pas parfaitement standardisées ou normalisées d'un bureau à l'autre.
Hein, voilà.
Et ça a été, grâce aux outils, un nouveau pas de franchi dans la normalisation, les standards, et puis ce qui fait que notre métier est quand même un tout petit peu industriel, parce qu'on gère des volumes, on gère une récurrence, et il faut, dans ce métier réglementé, s'assurer de la qualité de ce qu'on fait et de l'uniformité de ce que l'on fait en termes de travaux, qu'ils soient des travaux comptables ou des travaux de paye. Quand j'ai repris le cabinet, il faut dire que c'était un cabinet familial, j'y travaillais depuis déjà 15 ans. Quand on a pu mettre en place mes choix, c'est-à-dire avec une liberté budgétaire et d'arbitrage de décision, j'ai fait le choix d'abord et avant tout d'essayer de me mettre à la place des collaborateurs. Donc, j'ai voulu leur changer leurs outils pour rehausser et leur donner de la sécurité, rehausser leur confort de travail. J'ai souvent donné comme exemple que les outils qu'on avait auparavant, c'était un petit peu... pour prendre la comparaison avec une entreprise qui aurait une force de vente nomade et qui enverrait ses commerciaux sur la route avec des voitures qui ne seraient pas régulièrement changées. Donc, à un moment donné, on ne peut plus se permettre d'envoyer un commercial sur la route avec une voiture qui a 400 000 km et qui n'a pas toutes les options. Et donc, le changement de nos outils, ça a été un vecteur de rapprochement de la direction de notre cabinet que j'incarnais avec nos collaborateurs et leurs intérêts du quotidien. Hein, la pratique et le confort du quotidien. Donc, ils ont vu grâce à ça qu'on s'est penché sur leur confort de travail. Ça a été une étape importante de le voir. Et puis, alors, on a, sans sombrer dans la réunionnite, hein, simplement, on a créé des groupes de travail, on a mis en place un groupe pilote pour partager les questions-réponses, faire en sorte que ça ne fasse pas que descendre, mais que ça remonte aussi les messages du terrain sur l'usage des outils, la mise en place des nouveaux outils et puis des nouvelles méthodes qui vont avec. Et puis, ça a contribué à renforcer nos relations internes. Et puis, tel que je l'ai voulu, et je ne dis pas que ça marche tout le temps, mais augmenter, maximiser le sentiment d'adhésion pour que nos collaborateurs, quand ils arrivent derrière leur poste de travail, soient heureux d'utiliser les outils dont on les a dotés. Voilà, ça nous a rapprochés. Et l'expert comptable qui se penche sur l'outil, c'est peut-être pas le lot quotidien de tous les cabinets modernes, mais en tout cas pour nous qui avions besoin de pas forcément réformer nos modes de travail, mais de réactualiser, de reprendre de l'avance sur certaines pratiques de production, certaines méthodes. Les collaborateurs ont vu des dirigeants, ont vu des experts comptables qui sont venus à côté d'eux et non pas simplement au-dessus d'eux. C'est ça qui a créé, je pense, une atmosphère favorable au fait que ces changements semblent bien vécus.
Ouais, c'est vraiment important de se mettre à la place de son collaborateur et c'est ce qui vous a permis de mieux les comprendre finalement.
C'est jamais totalement gagné, mais le management est un sujet qui n'a pas de règles édictées. Hein. C'est quelque chose de particulier à la culture, à l'entreprise, à l'histoire. Et puis nous, la nôtre, c'était l'histoire de cabinets dont les dirigeants n'avaient pas vraiment transformé leur chaîne comptable ou leur chaîne de paye et avec un management qui n'avait pas... porter une attention particulière aux méthodes. Donc, on faisait de la qualité, toujours, bien sûr, historiquement, nos cabinets, comme tant d'autres, faisaient des comptas et des payes de qualité, des audits de qualité, mais avec des outils et des méthodes qui, devenus parfois archaïques, entraînaient dans notre gestion des prix de revient parfois trop lourds. À chaque fois qu'un éditeur nous disait « vous allez gagner du temps, c'est une question de productivité, vous allez pouvoir libérer des espaces », alors, au début, ce n'était que des mots. Et puis, en fait, on s'aperçoit qu'en effet, la question de la productivité est réelle, sinon essentielle. Et puis, qu'on a contribué, là, on n'est qu'au début, hein, parce que ça fait que 2 ans qu'on a changé nos chaînes. On a quand même allégé nos structures de coûts. Et donc, en effet, il y a quand même un sujet sur la productivité qu'on peut déjà ressentir comme favorable. Et c'est quelque chose à surveiller parce qu'en effet, après, quand on passe trop de temps sur certaines tâches et que nos outils ne nous aident pas à alléger, à amincir ces pratiques, ces temps passés, le risque, c'est qu'après, on ait des prix de revient qui s'alourdissent et puis qu'on n'arrive plus à être compétitif sur nos tarifs et ça peut être dangereux.
Et quel est le pourcentage des collaborateurs en télétravail au sein du cabinet, même hors contexte sanitaire ?
Alors, si on se place hors contexte Covid, quasiment aucun. On va dire qu'on est un cabinet vraiment classique, on arrive au bureau, on s'installe et puis on a une relation client au téléphone, par mail, et puis on produit au cabinet. Il n'y a pas de télétravail, on est resté assez classique de ce point de vue. Il faut préciser que nos bureaux sont des bureaux plutôt de zone rurale ou petite ville, et les comportements au travail de nos collaborateurs sont restés d'un classicisme qui me convient très bien, je dois dire. Alors après, dans le contexte Covid, première vague en mars 2020, quasiment tout le monde s'est mis en télétravail. On a eu quasiment pas de recours au chômage partiel, si ce n'est sur nos postes de secrétariat. Donc, on a eu 2 personnes en chômage partiel, peut-être même un demi-équivalent temps plein sur nos juristes. Et puis, peut-être un apprenti. Donc, voilà, on a eu sur nos 40 collaborateurs, on a eu 3 ou 4 ETP en chômage partiel. Tout le monde s'est mis en télétravail. Ça a très bien marché. On a vu une conscience professionnelle vraiment élevée à la traversée de cette première vague.
Oui.
Pour faire face à toutes ces sollicitations relatives au contexte.
Oui.
Hein, le 11 mai, c'était la joie. Hein. Tout le monde était content, mais on avait anticipé d'une semaine parce qu'on commençait déjà dans certains bureaux à avoir des collègues qui tenaient plus en place. Et puis l'isolement a fait que voilà, il y a pu avoir quelquefois des gens qui ont craqué et ils étaient impatients de reprendre le chemin des bureaux.
Oui, tout à fait. L'aspect social est très important.
Deuxième confinement, il n'y a pas eu de télétravail quasiment. Tout le monde a demandé à organiser son temps au bureau. Et en dehors des quelques personnes qui avaient des contraintes de sortie de classe, de garde d'enfants, ou dont la résidence principale ne convenait pas particulièrement, donc on a eu très peu d'adaptations et les gens sont principalement restés au bureau avec, à la marge, quelques adaptations en télétravail.
Alors, la profession d'expertise comptable, on le sait, subit un turnover qui est non négligeable. Pouvez-vous partager vos clés justement pour réduire ce turnover au sein du cabinet Intégral Expert ?
Alors, Intégral Expert, sur le volet Picard, à Saint-Quentin, Guise, Fourmies, Vervins, j'ai la chance de ne pas avoir connu un turnover particulier. Je dois préciser par exemple qu'en septembre 2019, il y a plus d'un an, 1 an et 3 mois, je mettais à la retraite 2 collaboratrices qui avaient commencé leur carrière quasiment lorsque mon grand-père était parti à la retraite. Et même un peu avant. Ça existe encore, des gens qui font toute leur vie professionnelle dans un cabinet, dans une entreprise. Donc nous, on a connu ça. Et alors, le turnover, on a dû le gérer à la faveur de ces départs à la retraite qui sont arrivés en cascade. Et il a fallu renouveler notre effectif avec des nouvelles recrues et toutes les complexités que pose aujourd'hui l'attractivité de la profession, la rencontre de l'offre et de la demande sur nos métiers du chiffre. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de voir arriver des CV, des candidatures spontanées. Notre profession est shortée par les cabinets de recrutement qui reçoivent toute la demande.
Oui.
Et donc, c'est pas facile du tout d'y voir clair dans la demande. Donc, aujourd'hui, notre équipe est remaniée. On a, entre guillemets, rajeuni, mais c'est pas seulement une question d'âge, mais on a rafraîchi notre effectif par des nouvelles recrues. Et le turnover, on peut pas trop en parler chez Intégral Expert. Chez Seboc dans le Val d'Oise, on a eu une croissance très rapide ces 8 dernières années. Et donc, cette année en particulier, elle a été difficile parce que il y avait des jeunes femmes qui étaient en congé maternité, qu'il a fallu remplacer. Et là encore, confronté à la difficulté de capter les compétences, parce que les compétences en théorie sont bien employées chez les bons cabinets, on a parfois eu du mal à recruter. Et oui, le recrutement est plus que jamais, et je ne pense pas être le seul à le dire et à le vivre, y compris même au-delà de la profession. Hein. Nos clients souffrent tous à recruter. Hein. C'est très, très, très difficile de recruter.
Certains domaines, c'est compliqué, oui.
Mais ce n'est pas nouveau. Nos anciens diraient, attends, ce n'est pas nouveau. De notre temps aussi, c'était déjà le cas.
Oui.
Bon, mais il y avait quand même moins de turnover à l'époque qu'aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, on a une société où l'offre et la demande du travail laissent plus de place à l'expérience, à l'expérimentation. Et donc, fidéliser les collaborateurs dans ce contexte implique un management particulier dont je n'ai pas nécessairement les clés au quotidien, mais c'est un sujet de préoccupation. Ouais. La fidélisation et entretenir, nourrir ce sentiment d'adhésion à ce que l'on fait. Hein. Préparer nos collaborateurs à ces transformations digitales, c'est nourrir leur employabilité en même temps qu'on prépare nos clients à ces mutations qui sont en train d'arriver et qui seront je pense, comme de nombreux confrères, qui seront vraiment très concrètes lorsque la facture électronique vivra son avènement total. Parce qu'aujourd'hui, oui, seuls quelques secteurs de l'économie sont exposés à l'obligation de produire une facture électronique. Mais on sait que d'ici 3-4 ans, ça va devenir un impératif dans toutes les entreprises. Et le jour où la facture électronique arrive dans nos process, autant dire que ce jour-là, il faudra que tous nos collaborateurs et, on le souhaite, nos clients y soient correctement préparés. Donc là, on a devant nous une époque intéressante et un moment qui n'est pas si court que ça, mais il n'est pas trop long non plus. On a 2 ans, 3 ans devant nous pour nous entraîner parfaitement à cette grande transformation induite par la facture électronique qui va arriver. Donc, pour fidéliser nos collaborateurs, on est obligé et on a plaisir à leur dire que ces mutations, on les vit ensemble. Et puis, ils servent leur propre intérêt parce que derrière ces sujets, il y a un enjeu d'employabilité pour eux-mêmes comme pour l'employeur. L'employabilité pour le cabinet, c'est simplement rester contemporain, rester compétitif. Donc l'employabilité, on le voit, c'est un sujet qui permet de ramener nos collaborateurs dans le sentiment d'adhésion et dans la traversée positive de toutes ces transformations.
Et j'imagine que parmi les succès, il y a eu également des échecs. Est-ce que vous pouvez nous partager vos échecs ?
Alors, certainement, les échecs, puisque ce nom existe, c'est bien qu'il a du sens. Mais il faut essayer autant que possible de bien les vivre pour en tirer les bons enseignements. Donc, des échecs, vous voulez dire dans le contexte humain ou technologique ?
Les deux.
Je dis souvent à mes collaborateurs que vivre une migration technique, un changement d'outil, une réécriture de procédure, ce sont des étapes que tous les cabinets rencontrent à un moment donné de leur existence. Et donc, il ne peut pas y avoir, entre guillemets, d'échec à une migration fonctionnelle, technique ou de méthode. On doit évoluer et donc, ce qui serait un échec, ce serait ce que je disais tout à l'heure, ce serait le renoncement. Alors, on a le droit d'échouer, d'avoir fait, par exemple, le mauvais choix avec un outil ou certaines méthodes. On a le droit d'échouer lorsqu'on fait le choix, par exemple, de faire ou de faire faire. Il y a des cabinets qui ont des prédispositions à la sous-traitance, quand d'autres préfèrent maîtriser la compétence et continuer de produire. On peut se tromper, mais à chaque fois, bien sûr, en tirant tous les enseignements de ce qui n'a pas marché. Sur le plan technique, le SaaS, on a pu voir que c'était un choix pertinent, alors qu'au début, notre éditeur nous disait « Attention, on va vous trouver un hébergeur, mais vous serez le premier parmi nos clients à faire le choix du SaaS. » Ah bon ? Alors, ils font comment les autres ? Alors, ils investissent, ils ont des salles d'ordinateurs, voilà, et puis ils ont le serveur en local, ils fonctionnent en TSE ou je ne sais quoi. Nous, on avait fait le choix du SaaS. Bah, le SaaS, voilà, ça a été un choix pertinent, mais il faut dire qu'on a rencontré des difficultés. Et même des fois, on a eu des frayeurs parce que quand ça plante et puis que plus personne ne peut travailler et que véritablement, on dépend de la connexion et d'Internet, là, les collaborateurs vous regardent du coin de l'œil en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce choix ?» Heureusement que les solutions sont rapidement trouvées. Aujourd'hui, on est content d'avoir fait ce choix du SaaS. Ensuite, je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire que le choix d'Agiris n'a pas été un bon choix. C'est un choix heureux. Ça s'est bien passé avec les gens qui nous ont accompagnés. On a dû beaucoup investir en interne sur les paramétrages et ce qu'on voulait utiliser de l'outil pour nos spécificités. On ne voulait pas que nos plaquettes soient strictement le copier-coller de celles des autres. Donc, Isaconta, un bon choix. On avait fait également un choix de GED auparavant qui n'était pas Isaged, on était avec Novaxel. Et la numérisation de toute la production documentaire des collaborateurs a été un sujet de pilotage, de management, de changement de pratique, de nouvelles habitudes. Et donc, l'utilisation d'une GED a révélé des gains de productivité. On a arrêté de doublonner certaines tâches tout au long de l'année, voire même après d'un exercice à l'autre. Donc, la GED, c'est vraiment sans forcément tendre vers le zéro papier. La GED est une fonctionnalité essentielle à nos métiers. On a aujourd'hui décidé de rejoindre Agiris avec la solution GED d'Agiris. Les échecs, il y en a eu, mais c'est à chaque fois, comme à chaque transformation d'outils ou de méthodes, ce sont plus que des échecs, ce sont des freins, des ralentissements, le traitement des objections, le fait que parfois il est difficile d'aligner tout le monde, qu'on peut avoir certains collaborateurs, c'est pas seulement ceux qui sont les plus anciens, mais qui ont des réticences au changement ou plus élevées que les jeunes générations. Donc voilà, c'est ça qui constitue une difficulté.
Alors, j'ai une dernière question pour vous. En tant que manager, quelle est la plus belle récompense que vous ayez eue ?
Alors avant, on avait un cabinet dont le modèle, comme beaucoup de cabinets de la profession comptable libérale, y compris avant moi, mon père qui avait développé ce cabinet par croissance externe, donc était déjà rentré dans une logique quand même d'entreprise de services et plus seulement de production de données comptables ou fiscales. Mais il demeure que cette génération-là, c'est absolument pas lui faire offense que de dire ce que je vais dire, mais elle était quand même incarnée par l'expert comptable avec un management intermédiaire quasiment inexistant. Je dis bien quasiment inexistant. Donc, il y avait, entre guillemets, un chef, et puis en dessous, il y avait une armada de collaborateurs. La grande satisfaction que j'éprouve, mais j'ai déjà commencé à la ressentir avec lui avant que je lui succède, c'est d'avoir réussi à mettre en place un management intermédiaire pour accompagner l'expert comptable dans toutes ces transformations. Parce que l'expert comptable ne peut pas être omnipotent, ne peut pas être partout, il ne peut pas être sachant de toutes choses. Et on lui en demande beaucoup. Et le partage des chantiers transverses au sein d'un cabinet ne peut se faire que par la mise en place d'un management intermédiaire. Donc, ça veut dire de responsabiliser certains collaborateurs qui ont des prédispositions. J'ai une certaine satisfaction à avoir vu fonctionner positivement ce management intermédiaire, c'est-à-dire des gens qui se sont mis au service des autres. Ça m'a beaucoup plu de voir fonctionner ce travail d'équipe et ce management intermédiaire.
Merci Antoine.
Merci à vous.
Maintenant, chères auditrices et auditeurs, c'est à vous de travailler. Ce podcast est fait pour vous. Je vous invite donc à nous envoyer les questions qui vous trottent dans la tête ou simplement celles auxquelles vous ne trouvez pas de réponse satisfaisante. Pour ce faire, c'est très simple. Vous nous écrivez à communication@agiris.fr. L'adresse mail est dans la description de cet épisode. Sur ce, je vous dis merci à toutes et tous. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez nous le dire, donnez-nous des étoiles et partagez-le. À très bientôt. Au revoir.